Bien, chers auditeurs, week-end dernier, nous avons vu l'orgueil des Assyriens et aussi ceux des Babyloniens. L'Éternel nous a montré comment de pauvres humains se sont enflés jusqu'à vouloir prendre la place de Dieu et se mettre à la place du Tout-Puissant. Nous avons vu que ce n'est pas possible qu'un humain devienne Dieu, car il est créature et le bon Dieu est créateur. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Par conséquent, quand quelqu'un veut se comporter en Dieu, soit sur une partie de la terre, soit sur la terre entière, il va certainement au-devant de l'écrasement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons considérer la défaite des Assyriens. La défaite des Assyriens. Ceux-ci avaient progressé par la volonté du Tout-Puissant ou bien par la permission du ciel. Ils avaient fait de leur mieux pour conquérir tout le Proche-Orient, pour dominer ce monde connu. Cependant, ils n'avaient pas pensé à rendre grâce à celui qui leur avait accordé tant de permissions. Ainsi, ils seront anéantis, ils seront défaits. Oui, ils seront défaits. Notre sujet du moment parle de cette défaite en cinq parties. Premièrement, des alliances dangereuses. Ensuite, une propagande pour le roi d'Assyrie. Après, ébranler mais pas délaisser. Puis, la fin de l'histoire. Et enfin, dans la maladie et dans l'opulence. Quel est le plan de tout ceci? C'est un plan. Mais quel est le plan de ce plan? Voici, un malheur menace Juda. Quelle sera l'attitude du roi de Juda? Si son attitude est positive, l'Éternel interviendra. Par ailleurs, un chef ennemi défie le ciel par un langage outrancier. Quelle sera l'attitude de l'Éternel à son égard? En fait, la même conclusion qui enveloppera l'armée ennemie enveloppera aussi le chef insolent. Cependant, notre sujet n'a pas oublié totalement le roi Akal, car si cette leçon, ce sujet nous est présenté afin de nous montrer la sollicitude de l'Éternel envers ceux qu'il aime, c'est aussi pour montrer son attitude envers ceux qui le haïssent. Suivons avec intelligence cette leçon si profonde. Un malheur menace le pays de Juda, tel que nous le constatons dans Ésaïe, chapitre 36, versets 1 et 2. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Le roi d'Assyrie, l'armée du roi d'Assyrie, une armée devant laquelle aucun pays n'a résisté. La voici aux portes de Jérusalem. Quelle sera l'attitude d'Ézéchias? Nous la trouvons dans Ésaïe 37, versets 1 à 4. Ésaïe 37, versets 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias fit entendre cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi. Shebna, le secrétaire, et les vivants, rien des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amos. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Bien-aimés, nous sommes ici devant une attitude extraordinairement admirable. Un pays est menacé et même cerné par une armée ennemie, et le roi du pays, au lieu de rassembler son armée pour se défendre vaillamment, s'est plutôt adressé à un prophète pour demander à celui-ci de faire monter à l'Éternel une prière en faveur de ce peuple. En sorte que le roi Ézéchias se propose de se battre non par les armes, mais par la prière. Ça, c'est un fait vraiment rare dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, puisque Ézéchias a demandé la prière, il a recours à la prière, quelle sera l'attitude de l'Éternel? Ésaïe, chapitre 37, verset 31 à 38. Ésaïe, chapitre 37, verset 31 à 38, va nous montrer l'attitude du Dieu auquel s'adressait la prière. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, tout sera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Oh, belle chose! L'Éternel a décidé de protéger la ville en réponse à la prière de son serviteur. Bien-aimés, confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. Toutefois, si Ézéchias n'avait pas voulu se battre armée contre armée avec le roi d'Assyrie, s'il avait recours à la prière, il n'était pas pour autant resté les bras croisés. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 1 à 8, nous lisons, le roi d'Assyrie pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que son chéri, roi d'Assyrie, était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Un petit peu de détail. Le roi d'Assyrie menace Jérusalem. Le roi Ézéchias, au lieu de penser adresser armée contre armée, s'adressa plutôt à l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, demandant à celui-ci de faire monter une prière à l'Éternel. Notre Dieu s'est montré favorable dans la protection de la ville et fait dire à Ézéchias que le roi d'Assyrie n'y entrera point parce que lui, l'Éternel, il protégera la ville. Alors, Ézéchias prit courage. Il rassembla son peuple, fait le nécessaire, tout en exhortant le peuple à placer sa confiance en l'Éternel. Une note nous dit, quand Ézéchias réalisa que Sanchérib avait l'intention de prendre Jérusalem, la capitale, il fit d'intenses préparatifs pour affronter la Syrie. Il renforça ses fortifications, équipa et organisa davantage son armée et s'assura que la réserve en eau de Jérusalem était protégée au mieux. Il est pratiquement certain que le remarquable canal de Siloé date de la préparation d'Ézéchias en vue d'un siège éventuel. Ézéchias offrit une direction spirituelle tout aussi importante que la direction militaire et stratégique pour remonter le moral de son peuple à cette époque effrayante. Il l'encouragea par ses paroles, « Soyez fort et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par le roi d'Assyrie et par toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Avec nous, il y a le Seigneur, notre Dieu, qui viendra à notre secours et qui mènera nos combats. » Par contre, nous allons examiner une autre attitude. Le père d'Ézéchias, quelques années auparavant, un malheur menaçait Judas et commençait même à le ronger. Voici, 2 rois 16, verset 5. Ritsin, roi de Syrie, et Pekah, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz. Et dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 6, Pekah, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Malheur, oui, malheur, menaçant et ravageant Juda. Quelle était l'attitude de Akaz, du roi Akaz? De Chroniques 28, versets 22 à 25, l'on dit. De Chroniques 28, versets 22 à 25, l'on dit. Pendant qu'il était dans la détresse, Akaz, il continuait à pécher contre l'Éternel. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et quelle sera aussi l'attitude de l'Éternel? Deutéronome 28, verset 29, nous dit. Deutéronome chapitre 28, le verset 29 nous dit, ou plutôt le verset 19, l'Éternel humilia Juda à cause d'Akan, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint. Bien-aimé, regardez l'attitude du père d'Ézéchias. Un malheur menace et même commence à ravager Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré se confier aux dieux païens, les dieux d'Assyrie, de Syrie, pour leur sacrifier, c'est-à-dire leur offrir des sacrifices, au lieu de se confier en l'Éternel. Et celui-ci, humilié le roi Akaz, parce que ce méchant roi s'est confié dans des idoles. Quelle différence avec son fils Ézéchias. Retournons maintenant à Ézéchias, le chef de l'armée du roi d'Assyrie. Au lieu de se battre homme à homme avec Ézéchias, c'est à Roger le droit d'insulter même l'Éternel, comme nous allons le voir dans Ésaïe 36, à partir du verset 13. Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera cette ville, et de cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Oh, mes amis, quand l'homme se fait arrogant, il sert vraiment toute raison. Rabshaké, un humain mortel qui a osé dresser sa langue contre l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Les dirigeants de la Syrie étaient non seulement brutaux, mais intelligents. Ils visaient la richesse et le pouvoir, pas seulement la destruction. Pourquoi se donner le mal de prendre une ville par la force si on parvient à persuader ses habitants de se rendre? C'est pourquoi, alors qu'il était occupé par le siège de Lachish, Sanchérib envoya son Rabshaké, sorte d'officier de gros rang, conquérir Jérusalem, et celui-ci, au lieu de s'abattre sur la ville, essaie de persuader ses habitants de se rendre, afin que lui, il puisse entrer dans la cité, pour s'emparer plutôt de la richesse de celle-ci. Le Rabshaké avança des arguments relativement puissants. Vous ne pouvez espérer que l'Égypte vous aide, parce qu'elle est faible et non fiable. Vous ne pouvez vous attendre à ce que le Seigneur vous secoue, parce qu'Ézéchias l'a offensé en enlevant ses hauts lieux et ses autels dans Juda, déclarant au peuple qu'il devait l'adorer en un seul lieu, Jérusalem. En réalité, le Seigneur est du côté de la Syrie et a demandé à Sennacherib de détruire Juda. Vous n'avez même pas suffisamment d'hommes entraînés pour monter 2000 chevaux. Pour éviter un siège au cours duquel vous n'aurez rien à manger ni à boire. Rendez-vous maintenant et vous serez bien traités. Ézéchias ne peut vous sauver. Et de même que les dieux de tous les autres pays confiés par la Syrie ne les ont pas sauvés. Soyez certains que votre Dieu ne vous sauvera pas non plus. Tel a été le raisonnement de Rabshakeh. Une question. Disait-il la vérité? Écoutons. Du fait qu'il y avait une bonne part de vérité dans sa déclaration, ses arguments étaient persuasifs. Pour aller encore davantage dans son sens, il existait deux arguments non dits. Premièrement, il venait de Lachish. Oui, il venait de Lachish, à seulement 45 km de là, où les Assyriens témoignaient qu'ils arrivaient à une ville puissamment fortifiée qui osait leur résister. Deuxièmement, un important contingent de l'armée assyrienne l'accompagnait. Et c'est vrai, le roi d'Assyrie avait conquis tous les pays environnants sans que leurs dieux eussent pu les délivrer de la main de ce roi. En sorte que Rabshakeh, en dirigeant sa bouche contre l'Éternel, disait quand même la vérité à propos des dieux, des faux dieux, des pays environnants. Cependant, il avait ignoré que l'Éternel n'est pas comme tous les autres dieux. C'est le Dieu. Les autres dieux n'existent point en réalité. Et l'Éternel va tenir aussi un langage à la manière de Dieu face à Rabshakeh. Alors, Esaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de ton chéri, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert ses sources et j'en ai bu les eaux, et je t'arriverai avec la plante de mes pieds sous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en manteaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la table verdure, comme le gazon des droits et le blé qui sèche avant la formation du sage. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Pourquoi cette attitude de l'Éternel? Tout à l'heure, nous avons vu qu'il s'est proposé de protéger Jérusalem parce que Ézéchias a recours à la prière. Mais à louer des paroles insolentes de Rabshakeh, qui même avait osé envoyer une lettre insultante à Ézéchias, celui-ci eut encore recours à l'Éternel, tel que nous allons le voir dans Ésaïe 37, à partir du verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Tout à l'heure, Ézéchias avait demandé au prophète Ésaïe d'adresser une prière en sa faveur. Maintenant, le roi va lui-même au temple adresser personnellement sa prière à l'Éternel des armées. Deux fois, question de prière. Bien-aimés, quand nous sommes en face de situations qui dépassent notre possibilité, notre puissance, si toutefois nous en avons quelqu'une, allons à l'Éternel, car celui-ci est le rocher des siècles. Il protège, il garde, il est notre avant-garde, il est notre arrière-garde, il est notre gardien, et tous les mots de la famille de garder concernent l'Éternel face à son peuple. En fait, ébranlé au plus profond de son être, et se lamentant de désespoir, Ézéchias se tourna vers Dieu, recherchant humblement l'intercession d'Ésaïe, le prophète même dont Akal son père avait ignoré les conseils. Sanchérib avait ostensiblement attaqué la plus grande protection d'Ézéchias, sa foi en Dieu. Plutôt que de céder, Ézéchias pria Dieu de démontrer qu'il était, que tout, de démontrer qui il était, sa foi, que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es le Seigneur. Réponse à la prière pleine de foi d'Ézéchias. Dieu lui envoya un message qui le rassurait complètement sur Judas et qui débordait d'une fureur noire contre l'orgueilleux roi assyrien qui avait osé frapper le divin roi des rois au visage en insultant celui-ci par des paroles arrogantes. Que va-t-il se passer? D'abord, l'assurance est redonné au roi Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de prêt, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Le roi d'Assyrie s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Que se passera-t-il? L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était posterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Abimelech et Shalézer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ararat, dont son fils, régna à sa place. Quelle délivrance! Quelle intervention puissante! quel secours opportun. L'Éternel a fait ce qu'il a dit, les Assyriens sont défaits. Et nous nous imaginons le roi Ézéchias avec son peuple, après cette grande délivrance miraculeuse, prendre leur Bible pour lire ou bien pour chanter le psaume 127, le psaume 27 plutôt. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour attirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. J'offrirai des sacrifices à sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Et bien aimé, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous qui connaissez des moments difficiles, vous qui passez par des chagrins extraordinaires, vous qui êtes rongés par des tribulations au-dessus de vos forces, songez que dans les temps passés, le Dieu de Juda avait défait les Assyriens. Or, il ne change pas, car en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par conséquent, il a délivré autrefois. Il délivre encore aujourd'hui et il délivrera toujours. Seulement, confions-nous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles.
Malgré ton habitude, pour le calme, gravez-y. Il voit par contre, il enlève mon pain, son amour.
Éternel, notre Père et notre Dieu, Maître du ciel et de la terre, et protecteur de tout cela qui se confie en toi, nous voici devant ta face. Tu as fait écrire ta parole pour notre instruction, afin d'affermir notre foi en toi. En effet, nous avons lu cette parole, nous avons un peu compris, et nous voulons nous confier en toi. De grâce, veille être avec nous. Tu connais tous ceux-là qui sont pour nous et tous ceux-là qui sont contre nous. Mais dès que nous avons l'Éternel, nous avons tout. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De grâce, notre Père et notre Dieu, veille intervenir en faveur de tes enfants afin que nous constations les effets merveilleux de ta miséricorde envers nous. Et qu'ainsi, nous continuons à chanter ta gloire plus que jamais. Merci pour cette belle expérience de grâce que tu as fait consigner dans le Saint-Livre à notre attention. Merci pour toutes les bénédictions dont nous avons déjà joui de ta part pendant toute notre existence. Et certainement, les réserves de l'Éternel sont infinies envers nous. Par conséquent, il y a encore des multitudes de bénédictions que tu es disposé à déverser sur nous, pourvu seulement que nous nous confions en toi. Veuille donc nous augmenter la foi nous donner cette assurance qui ne déçoit point, en sorte que tes enfants demeurent fermes en toi et avec toi, et que jusqu'au bout, nous te servions. Sois avec chaque membre de nos maisons respectives, avec nos amis, nos bienfaiteurs. Donne-leur de te connaître et de connaître Jésus-Christ. Sois aussi avec nos amis, nos ennemis. Veille à avoir un œil compatissant pour eux, car eux aussi sont tes créatures. Veille, au lieu de les frapper, purifier leur cœur en les convaincant de péché, de justice et de jugement, en permettant que leur conscience soit ouverte aux choses d'en haut, afin qu'ils se retournent contre eux-mêmes et se donnent à toi. Exauce ton fils de frère, parce que nous te prions au nom de Jésus. Amen.